L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine. Un module radiophonique qui se pose dans vos oreilles à midi et qui s'y rediffuse à 18h sur Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion. Le mardi, souvent, on reçoit des scientifiques de toute matière, des sciences du vivant, souvent en lien avec l'océan notamment, des sciences humaines aussi, de l'histoire, du droit et aujourd'hui, des sciences du langage. C'est un domaine qu'on aborde rarement à la radio et sur cette antenne, alors que quand on y pense, c'est vraiment un sujet radiophonique. Il est question de la langue, mais surtout de ce qu'elle nous apprend sur notre société, notre histoire, notre psychologie collective. Notre invité est doctorant en sciences du langage et même précisément en analyse de discours. Il étudie plus particulièrement le discours qui entoure les manifestations de rue en France. Ça fait 8 ans que ça dure. J'espère qu'il est en ligne car il a eu un problème de voiture. Bonjour Pierre Chartier.
Bonjour, je suis bien là.
Bon, vous êtes là. Eh bien, j'espère que le téléphone va tenir. C'est vrai qu'on a peu l'habitude de faire 26 minutes par téléphone. On va essayer. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la recherche en sciences du langage ? Qu'est-ce que c'est que la science du langage ? Peut-être une petite définition ?
Alors, les sciences du langage, c'est un domaine de recherche très, très vaste qui regroupe, par exemple, donc, ce qu'on appelle plus la linguistique, hein, donc vraiment l'étude des langues. Comme la grammaire, la conjugaison. Il peut y avoir aussi la phonétique, donc voilà, les façons de prononcer. On a eu un exemple dernièrement dans les médias avec le phénomène de l'affrication qui touche les jeunes générations et qui a déclenché une panique morale plutôt à droite. Donc ça fait partie des sciences du langage, mais il y a aussi le sens du langage. Et donc là, on est plutôt dans du domaine de la sémantique et de l'analyse du discours, où on va étudier par exemple la rhétorique, les éléments de langage et la polysémie, par exemple.
Vous avez une idée du nombre de chercheurs en sciences du langage qu'il y a en France ?
Non, il y en a beaucoup. Alors un nombre comme ça, ce serait assez compliqué, d'autant que la recherche scientifique, elle se veut le plus international possible. Donc en fait, on évite de regarder trop localement, on va dire, et de rester dans l'entre-soi. Donc on va essayer d'élargir un peu plus. Donc c'est compliqué de donner un nombre précis, quoi.
En tout cas, il y en a à Brest, vous en êtes la preuve. Et les sciences du langage, en fait, comment est-ce qu'elles sont utilisées actuellement ? Qui les fait travailler et pourquoi ?
Alors, bien évidemment, la première utilisation des sciences du langage, donc c'est dans la recherche et donc dans l'enseignement qui est accolé à l'université, donc dans les cours de linguistique, les cours d'analyse du discours, mais aussi tout simplement les cours de langue, voilà, qu'on a tous et toutes eu depuis au moins le collège. Tout ça, c'est grâce à l'apport de la linguistique. Mais dans le milieu plutôt professionnel, privé, on va dire, on a les analystes donc de données sur le web, voilà, qui peuvent être commissionnés par un parti politique, une personnalité, une marque, et qui va aller chercher dans les discours comment cette marque est connotée positivement, négativement, à quel domaine elle est rattachée. Et donc, ça permet de faire du ciblage marketing, notamment, ou de construire un programme politique, de cibler un programme politique, en tout cas, dans le cas des élections.
Oui, c'est ça. Il y a des commandes publiques en période électorale sur des sujets particuliers, dont vous ayez connaissance, en tout cas.
À moi, à titre personnel, non, mais ça s'est déjà vu et su. Notamment pour savoir quel angle d'attaque prendre lors d'une municipale. Et on peut tout à fait imaginer que Brest, par exemple, l'ait utilisé, de voir qu'est-ce que les Brestois et les Brestoises ont envie d'entendre, qu'est-ce qui les rassurerait, ou sur tel sujet, comment ils se positionnent et quel champ lexical, en fait, mobiliser lors des discours pour toucher un électorat, soit qu'on a déjà acquis à sa cause, mais là, c'est peut-être moins utile, mais plutôt d'aller chercher les électeurs et les électrices des autres candidats ou candidates.
Et est-ce que vous travaillez avec d'autres disciplines ? Enfin, je sais pas, j'ai comme ça l'idée que finalement, les sciences du langage peuvent être utiles à des historiens pour... Est-ce que je dis n'importe quoi, mais imaginons qu'on étudie les discours produits pendant sous l'Empire romain en fin de période. Est-ce que ça permet de détecter déjà un peu la fin de l'Empire romain ? Est-ce que ça, c'est utilisé pour l'histoire ?
Oui, l'interdisciplinarité, elle est quand même très forte aujourd'hui. Et on peut penser par exemple à Brest au CRBC, donc qui est le laboratoire des études celtiques, où par exemple j'ai un collègue qui travaille en tant que linguiste avec des archéologues. Lui, son travail par exemple, ça va être d'étudier le nom des villages côtiers. Et en faisant ça, en fait, ils peuvent savoir quelle était l'utilité de ce village côtier. Donc par exemple, voilà, tel village va avoir tel mot dans son nom, et du coup ce mot se rapporte par exemple à l'espèce de poisson qui était pêché, ou à la méthode qui était pêchée, à la méthode de pêche qui était utilisée, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui et qui c'est un apport important des sciences du langage. Mais en effet, votre exemple est plutôt pertinent. À partir du moment où il y a des sources textuelles, en fait, à partir du moment où on a des mots, la linguistique peut rentrer en jeu.
Oui. Alors vous, en plus, Pierre Chartier, vous travaillez donc sur vraiment du langage, de la production du langage très très contemporaine. Enfin, vous travaillez plutôt sur les médias, c'est ça ?
Oui. Alors j'étudie là en ce moment pour ma thèse donc les commentaires YouTube qui ont été postés sous des vidéos montrant des violences lors de manifestations pendant la loi travail.
Donc c'est très précis.
Contemporain. Ouais, c'est de l'extrêmement contemporain et surtout le but c'est d'avoir accès au langage ordinaire, au langage des gens. Parce que lors de mon master de recherche, j'ai fait le même travail, on va dire, mais là, ce coup-ci, c'était les discours politiques et les discours médiatiques. Et donc, le but de toute cette recherche, thèse et master compris, c'est de faire une sorte d'état des lieux de l'année 2016 sur comment on parlait de la violence militante et des violences policières, comment on désignait les acteurs de ces violences et comment il y avait une lutte idéologique, une lutte politique autour de la légitimité de la violence d'un camp ou de l'autre.
Et pourquoi c'est le sujet de la violence précisément que vous avez choisi ?
J'ai envie de dire, et pourquoi pas ?
C'est vrai.
Mais non, en vrai, c'est une très bonne question. Déjà parce que en ayant moi-même été dans des milieux militants et ayant milité contre la loi travail, j'ai été frappé à l'époque des discours dans les médias, en fait, de la figure du casseur, comment elle était utilisée à toutes les sauces, du travail de légitimisation de la violence policière, de la légalité des actes avant même que la justice se prononce. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui m'avaient interpellé. Je m'étais dit, tiens, ça fera un bon sujet de mémoire de M1. Et en fait, en creusant, j'ai vu qu'en effet, c'était presque l'arbre qui cachait la forêt et qu'en fait, tous les discours qui concernent la violence, mais de façon générale, pas que la violence militante, mais la violence politique en particulier, je pense aussi au terrorisme, en fait, c'est des vraies luttes, il y a des vrais enjeux politiques derrière, d'accaparement de pouvoir, de légitimisation de sa propre violence en l'opposant à l'autre qui serait illégitime. Et donc voilà, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et donc depuis, j'ai continué le sillon, on va dire, et très peu de recherches ont été faites sur YouTube, en plus.
Oui.
En tant que linguistique, en tout cas en linguistique, j'entends, et en France particulièrement. Donc mon but, c'était un champ vraiment neuf, et ça me permettait de me décaler un peu du sujet pour m'interroger aussi sur l'influence du contexte d'énonciation, le contexte dans lequel le discours est énoncé. Est-ce que ça peut influencer le propos, que ce soit en termes d'intensité ou même en termes de sens, tout simplement, quoi.
Oui, j'imagine que cette émergence des réseaux sociaux, elle a beaucoup changé le travail des linguistes, en termes de ce qui est produit, de corpus accessible, déjà en termes de quantité, mais même de qualité, entre guillemets.
Oui. Non, ça a été un vrai changement de paradigme en discours, en linguistique en général, même s'il y a un vrai débat, on va dire, au sein de la communauté linguistique, des linguistes, il ne faudrait pas, ça c'est à mon sens, et je suis pas le seul à dire, mais à mon sens, il ne faudrait pas non plus se servir d'Internet comme du sort de réservoir à corpus infini. Je pense que c'est important, ça c'était Marianne Pavot qui l'a théorisé, et vraiment son travail fait date, sur l'écologie des discours, sur dans quel cadre les discours sont produits et comment justement l'influence du cadre va jouer sur la façon de présenter les choses. Et donc, en fait, on ne peut pas se servir d'Internet comme d'un corpus désincarné, on va dire, pour ensuite en tirer une généralité sur le discours social, donc au sens le discours, tous les discours produits partout, en tout temps. En fait, le discours sur Internet est très situé et on ne peut pas trop le sortir d'Internet. Enfin, pour moi, c'est une erreur méthodologique de faire ça, en tout cas.
Ah oui, c'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que les gens, ce qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux, enfin, ce qu'ils vont écrire sur les réseaux sociaux, c'est complètement spécifique. Ils ne le diraient pas dans la vraie vie. C'est ça que vous voulez dire, ou ils ne l'écriraient pas sur un autre canal
C'est ça. En fait, la particularité d'Internet crée forcément des particularités du discours, mais c'est aussi, on voit ça aussi en sociologie ou en psychologie sociale, on le voit tout ça, que les gens sur Internet ne sont pas pareils que... les gens en ligne ne sont pas pareils que hors ligne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mentent ou... en fait, on n'est jamais une seule personne, même hors ligne. Je veux dire, là, je suis avec vous, on est en train de parler, là, je suis dans mon rôle de chercheur, de doctorant, voilà. Il y a une heure, j'étais dans mon rôle personnel en train de faire mon jogging. Et donc, forcément, quand j'interagis avec les gens que je croise, je ne suis pas du tout la même personne, on ne va pas parler des mêmes sujets, je ne vais pas me présenter pareil, je ne vais pas utiliser même le même ton, le même vocabulaire. Donc, en fait, on a mille facettes. On est vraiment ce que Goffman, en sociologie, vraiment a étudié. C'était vraiment ça, comment, en fait, on utilise des masques dans la société et on change de masque selon notre interlocuteur, notre interlocutrice. Donc en fait, moi, ce qui est important, c'est de considérer qu'Internet est juste un nouveau masque et parmi d'autres. Alors oui, il permet sûrement de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, parce que les normes sociales, le jugement des autres, la doxa nous empêchent, nous freinent en tout cas dans nos discours. Mais parfois, ça peut être l'inverse avec le phénomène du trolling, par exemple. Les trolls, leur but... je veux dire, leur essence même, c'est de provoquer le débat, de provoquer la fureur de l'autre en allant essayer de titiller. Et ils tiennent souvent des discours qu'ils ne pensent pas. Parce que c'est juste pour le plaisir de provoquer le bazar, en fait.
Je comprends.
Voilà. Mmh.
Et donc, alors, quand vous travaillez, là, par exemple, prenons l'exemple de YouTube, comment est-ce que vous travaillez très concrètement? Déjà, on est d'accord que vous n'analysez que les mots, ou est-ce que parfois votre analyse va jusqu'à prendre en compte des images ou des émoticônes, je ne sais pas. Comment vous travaillez concrètement?
Alors, pour répondre à la deuxième question, oui, je prends en compte les mots, mais c'est, entre guillemets, la plus petite unité de sens. C'est comme ça qu'on l'appelle en linguistique. Hein. C'est vraiment, on va aller à la plus petite unité possible, au microscopique, si vous voulez, dans le discours. Mais oui, je prends aussi en compte les émoticônes, parce que les émoticônes sont des mots. En linguistique, déjà, le terme mot, bon, il est un peu galvaudé, on va dire, par rapport à la définition, on va dire, très précise ou de ce qu'on pourrait en attendre. Et en fait, on l'utilise très peu. Mais si on veut, un émoticône est un mot. C'est un mot émotion. C'est pas... mais ça porte du sens en soi.
La ponctuation aussi, je suppose.
Et voilà, exactement. La ponctuation est très importante. Je prends aussi en compte, alors dans une moindre mesure, mais parfois c'est quand même signifiant, la disposition du texte. Est-ce que la personne a vraiment fait des paragraphes? Est-ce que non, elle a écrit tout d'un seul bloc en oubliant des espaces? Et donc peut-être cela pourrait traduire une sorte de sentiment un peu d'urgence ou de colère. Enfin voilà, on peut après essayer de pousser l'analyse. Prends en compte les majuscules, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur Internet, l'utilisation de majuscules ou de minuscules, c'est porteur de sens.
Oui, normalement, quand on met les majuscules, ça veut dire qu'on crie, c'est ça enfin...
Exactement, ça veut dire que je hurle, que je crie. Et donc, tout ça, c'est hérité de ce qu'on appelle la netiquette, qui date des forums dans les années 90, avant même l'arrivée du web. Et donc, il faut prendre en compte tout ça. Parce que c'est signifiant. En fait, tout ce qui a du sens, c'est signifiant. Par contre, je ne suis pas dans l'analyse des vidéos. Je ne suis pas sémiologue, je ne suis pas sémioticien. Moi, ce n'est pas mon truc d'analyser les images. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de faire un résumé rapide de la vidéo, de ce qu'on y voit, voilà. Et une fois que le résumé est fait, de voir comment les commentaires interagissent avec ce qu'on a vu dans la vidéo. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Est-ce que les gens se répondent entre eux ou pas? Enfin, je vais vraiment essayer de regarder toutes les dynamiques qu'entourent les discours, en fait, les commentaires du public.
Et vous faites des grilles, des tableaux? Comment vous faites? C'est statistique, un peu, votre travail?
Oui, il y a une partie de statistique. On va compter le nombre de mots. On va compter, par exemple, Mon travail le plus récent, on va dire, ça a été d'étudier, enfin de quantifier le nombre de pronoms personnels. Donc, est-ce combien il y a de je, combien il y a de tu, de il, de nous, de vous, de il, au pluriel. Et du coup, de regarder est-ce que le discours est incarné. Donc, est-ce qu'il est pris en charge par l'énonciation. Et dans quel camp il se range. Par exemple, l'utilisation de nous et de vous, ça connote en tout cas une sorte de polarisation dans le discours. On a un camp dans lequel l'interlocuteur se place en disant nous, genre nous on soutient la police alors que vous les détestez. Imaginons ce commentaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris de la part de l'interlocuteur. Il y a un parti pris de s'inscrire dans un des camps opposés au camp des casseurs, des manifestants, des méchants, enfin des terroristes, de ce que vous voulez. Alors qu'à l'inverse, on peut imaginer un discours plutôt désincarné, vraiment du style commentatif, genre « Ah, il l'a échappé belle !» Bon, ben voilà, là, ça veut pas dire, on peut pas dire est-ce que la personne, elle a des sentiments négatifs, positifs par rapport à l'un ou l'autre des camps. Non, elle est vraiment dans le commentaire, voilà, le commentaire le plus basique. Donc voilà, ça sert à ça, par exemple, le côté statistique, mais je ne suis pas lexicographe. Donc ça veut dire que je ne vais pas faire que de la statistique textuelle, parce que là, en fait, c'est de la statistique, et donc je ne suis pas statisticien, mais j'utilise leurs outils qui sont mis à disposition à travers des logiciels d'analyse. Et grâce à ça, je peux avoir des données que je ne pourrais pas avoir, parce que mon corpus, c'est 32 424 commentaires exactement.
Ah oui, oui, c'est énorme. oui, tout à fait.
En format Word avec caractère en 12, voilà, donc le truc assez basique, mon corpus est 4286 pages.
Alors, donc, parmi vos travaux, vous l'avez évoqué brièvement, vous avez travaillé sur donc, le discours sur les manifestations de rue dans les médias et les déclarations des politiques qu'il y avait autour. Alors, vous pouvez nous dire ce que vous avez constaté dans ce travail ?
Oui, alors, on va dire le premier travail que j'ai fait et vraiment dans lequel je suis vraiment très fier, parce que c'était que en Master 1 et pourtant il a été très partagé. C'est le mémoire le plus téléchargé de tout l'UBO, toute discipline confondue. Donc il a eu un vrai écho, on va dire. Donc c'est sur l'étude du terme casseur. Et donc en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, désigner un manifestant violent comme casseur, ça va de soi et on ne s'interroge pas vraiment qui est le premier à avoir utilisé ce terme-là, casseur. Et donc en fait, j'ai fait une étude plutôt historique, justement. Donc, ce qu'on appelle une étude syntagmatique et paradigmatique, où on va en fait regarder dans les discours. Donc là, je me suis servi du Monde, du journal Le Monde, de leurs archives, pour voir quand est-ce qu'on a utilisé le terme casseur. Et en fait, avant la loi dite anti-casseur, donc après mai 68, c'était en 72, avant la loi anti-casseur, en fait, le terme casseur, ça désignait des braqueurs de banque, pour faire un casse du coup. Les personnes qui travaillent dans des casses automobiles, mais en fait, ça désignait jamais un manifestant. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Que le terme casseur, il est ce qu'on appelle exogène. C'est-à-dire qu'il a été créé non pas par les personnes qui sont nommées comme telles, c'est pas les manifestants et les manifestantes eux-mêmes qui se sont désignés comme casseurs. Et donc, en fait, tout de suite, ça change le sens du mot et aussi le fait de l'utiliser ou non, quoi. Donc ça a été la première, on va dire, la première chose que j'ai étudiée. Et ensuite, c'était plus une sorte de rétrospective sur la légitimation de la violence, mais de tous des deux côtés. Et donc dans le discours médiatique et dans le discours politique. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, les politiques ne veulent pas parler de violence policière. Ils ont beaucoup de mal. Parce qu'en fait, il est accolé au terme de violence une infinité de connotations négatives. Et en fait, on a du mal à voir la violence comme quelque chose de potentiellement positif. Alors que factuellement, une personne qui répond à quelqu'un, une personne qui se fait agresser et qui se défend, c'est de la violence. Elle utilise la violence pour se défendre. Mais on n'irait jamais lui dire, non, tu aurais dû te laisser faire, ou non, c'est pas bien, quoi. Pareil, dans le cas des révolutions, donc voilà, le printemps arabe, on peut penser, en fait, même factuellement, la révolution française, ça a été un déchaînement de violence. Mais sauf que le terme n'est pas présent dans les discours. parce que la violence, ça implique forcément quelque chose de péjoratif. Et donc, c'est ça, moi, en fait, que j'interroge. Je cherche, mais d'où ça vient, pourquoi, et c'est quoi les implications. Donc, voilà, c'est à peu près les deux... c'est à peu près ce que j'ai étudié dans, lors de mes deux mémoires.
Et justement, on dit beaucoup encore que la société est de plus en plus violente. Qu'est-ce que vous en pensez au travers de votre travail? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ouais. J'aurais envie de dire deux choses. Alors, à travers mon travail, c'était plus compliqué de voir ce premier point, mais heureusement qu'on a plein de collègues dans d'autres disciplines qui font un travail très sérieux. Et non, absolument pas. La société n'a jamais été aussi pacifique qu'aujourd'hui. Il y a très peu de crimes, très peu de meurtres. La guerre aussi, sur le territoire en tout cas, et en Europe, en dehors de l'Ukraine, mais en Europe, c'est plutôt calme aussi, à part quelques conflits, on peut prendre en Tchétchénie, ou en Yougoslavie, etc. Mais c'est plutôt épars. Donc en fait, nous, d'un point de vue purement franco-français, la violence est vraiment en chute libre, en quelque sorte. La société s'est vraiment pacifiée. Mais du coup, dans les commentaires, pourtant, il ressort ce discours-là, en effet, que vous dites là. Et on a l'impression que, ça n'a jamais été aussi violent. Et en fait, selon moi, c'est qu'en fait, on s'est déshabitué à la violence. En fait, on est devenu hyper sensible à la moindre émanation de violence. Et donc, la moindre violence nous est insupportable. Là où avant, on va dire dans les années 50, il y avait des meurtres tous les jours, des cambriolages ultra violents. On avait aussi le terrorisme d'extrême gauche qui faisait la une dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc en fait, ça mettait une sorte de contexte global où la violence était moins insupportable. En tout cas, la violence, on va dire le premier degré de la violence, parce qu'il y en avait plein d'autres au-dessus et que ça montait très haut. Or, aujourd'hui, on n'a plus cette barre haute. Donc, en fait, notre tolérance diminue petit à petit. Et aujourd'hui, un pavé jeté sur un abribus, c'est insupportable pour beaucoup de gens.
Mais est-ce que dans les discours, il y a du fait des réseaux sociaux sans doute, enfin de la façon dont ils fonctionnent, peut-être des algorithmes, vous aurez quelque chose à nous dire là-dessus, mais est-ce que le discours violent, lui, enfin avec peut-être agressif, je ne sais pas quel terme il faut employer, est de plus en plus présent par rapport à avant les réseaux sociaux, par exemple?
Là aussi, c'est quelque chose, c'est un point que j'étudie dans ma thèse et que je m'interroge en tout cas dessus. J'aurais envie de dire non plus. En fait, j'ai pas l'impression que dans ce que je vois, il y a plus de violence. La seule différence avec Internet, c'est qu'elle se montre. En fait, il y a avant Internet, on avait accès que à notre perception, à notre horizon de perception. Donc, on avait l'impression, parce que dans notre quotidien, il y avait très peu de violence, très peu de propos violents, d'injures, de gens qui se faisaient agresser verbalement. Et en fait, aujourd'hui aussi, c'est quand même, je pense, on peut se mettre d'accord sur, c'est très rare que soi-même, on soit témoin d'une agression, et voire plus, même juste d'une agression verbale. C'est quand même assez rare. Et le problème d'Internet, c'est que ça fige les choses et ça les donne à voir à tout le monde. Donc en fait, quand on va sur Internet, on a l'impression que tout le monde insulte. Et qu'avant, c'était pas le cas. Mais sauf qu'on sait pas ce qui se passe à 500 mètres à côté de nous, là, en ce moment, par exemple, pendant qu'on est en train de discuter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire agresser, mais on le saura pas. Donc, en fait, c'est ça le problème d'Internet, c'est que c'est une sorte de loupe. Mais en même temps, une loupe qui enregistrerait tout, absolument tout, et qui le donnerait à disposition à tout le monde, n'importe quand. Donc, en fait, ça fait une sorte de condensé. Ajoutons à cela, et vous avez raison d'en parler, c'est le principe des algorithmes. Vu que les algorithmes sont calibrés pour provoquer de l'engagement, vu que les propos polarisants, pour ne pas dire violents, vu que les propos polarisants provoquent cet engagement, que ce soit on va répondre parce qu'on est outré d'un commentaire raciste, on va liker ou disliker parce qu'on est d'accord ou pas, et on va le partager, si on veut vraiment partager, ou même juste, à Twitter, pour le critiquer, l'afficher. En fait, tout ça, ça provoque de l'engagement. Et donc, l'algorithme, il se dit, ah tiens, ça, ce message-là, les gens l'aiment bien, donc je vais le mettre en avant. pour ramener plus de revenus publicitaires. Donc en fait, on voit que le problème de l'algorithme, il est intrinsèquement lié à ce phénomène-là de surexposition de la violence. Mais non, je reste convaincu qu'il n'y a pas plus de violence qu'avant.
Et même dans les commentaires YouTube que vous étudiez ?
Alors, dans les commentaires YouTube que j'étudie, sur les 32 424 commentaires, faut se dire, il y a un bon tiers où c'est LOL, MDR, une suite de smileys, ou bien vu, ou trop drôle. Enfin, c'est ce genre de commentaires-là. Donc, en fait, oui, il y a des commentaires, oui, il y a énormément de violence. Il ne s'agit pas non plus de minimiser. Hein. Il y a énormément de violence verbale entre les gens, d'appels à la haine, et des propos vraiment abjects, hein, qui ont rendu cette thèse compliquée. Moi, il y a des moments où j'ai eu des effets vraiment de répulsion avec mon corpus. Je ne pouvais plus le voir, quoi. Parce que c'était vraiment d'une extrême violence. Mais c'était. Là, je n'ai pas le chiffre exact, mais je vous dirais, voilà, c'est 0,5% peut-être du corpus total. Et en fait, c'est plutôt rare. Mais comme nous, on a l'habitude de. Enfin, comme quand on n'est pas dans cet effort d'analyse au quotidien. Quand je vais sur une vidéo, que je vais lire des commentaires, je vais scroller un petit peu, voilà. Je vais lire peut-être les 5, 10, 15 premiers. Et ben, vu qu'ils sont pêchés par l'algorithme, ben, généralement, alors soit on est sur une communauté, on va dire, la communauté d'un youtubeur, d'une youtubeuse plutôt bienveillante, et on va avoir plutôt des commentaires voilà, gentils, d'encouragement, de félicitations. Ou bien on est sur une vidéo très polarisante. Et là, ben non, ce qui va être push, ça va être plutôt ben, les commentaires de haine, les commentaires vulgaires, insultants, etc. Et donc, en fait, si on fait juste ces 15 premiers commentaires, on a l'impression que 9 commentaires sur 10, c'est de la haine, de la violence, de l'insulte. Mais au final, quand on fait cet effort-là, que moi je fais en tant que chercheur, de dézoomer justement et de prendre les choses dans leur globalité, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai observé dans mon corpus. Mais là, encore une fois, c'est le problème aussi de la recherche, c'est que ce qui vaut dans mon corpus, c'est pas, et on ne peut pas en faire une généralité de dire que les commentaires YouTube sont majoritairement non violents. Je pense que c'est facile de créer un corpus dans le but de prouver le contraire.
Oui, bien sûr. Bon, eh ben on va s'arrêter là et on va vous remercier, Pierre Chartier, en espérant qu'on vous verra en vrai une prochaine fois. Merci.
J'espère aussi.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.